poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous voici donc de retour avec Claude dans ce studio de la rue d'Assali, Claude venant de faire sa petite virée en Europe du Nord, et nous allons reprendre maintenant nos émissions hebdomadaires de façon normale. Alors bien sûr, tout ce temps, il y a eu beaucoup de publications dont nous n'avons pas eu l'occasion de vous présenter. Vous, amateur de poésie, qui nous faites l'amitié de votre fidélité depuis maintenant longtemps. Et donc cette émission, cette semaine, va être essentiellement consacrée à ces parutions dont nous allons vous parler tout au long des semaines qui vont suivre. La première parution dont je voulais vous parler est celle qui est parue aux éditions Bruno Doucet de Dalia Ravikovic, ayant pour titre « Même pour des milliers d'années ». Alors, il s'agit là d'une poète, femme poète, donc, d'Israël, et ce sont des textes qui ont été traduits de l'hébreu par Michel Eckhart Elial, avec une postface de Sabine Youn. Alors, nous avons le plaisir d'avoir notre ami Michel Eckhart Elial avec nous au téléphone. Donc, Michel, bonsoir.
Oui,
merci
bonsoir,
beaucoup.
Bonsoir, Christian. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons faire une présentation de ce livre d'Alia Ravikovic, Même pour des milliers d'années, dont tu vas nous présenter, puisque tu as beaucoup travaillé sur ce livre en étant, bien sûr, le traducteur et en étant un des spécialistes de la poésie israélienne, étant précisé d'ailleurs que l'année 2018 est une année France-Israël et que Toulouse aura le plaisir de t'accueillir et d'accueillir des poètes israéliens au mois d'octobre à l'occasion de cet événement, dont nous reparlerons bien sûr. Alors, Dalia Ravikovic, d'abord, si tu le permets, je vais dire simplement ce qu'en dit l'éditeur Bruno Doucet. Ces étincelles de lumière dans l'obscure matière, a-t-on jamais vu femme poète évoquer avec tant d'ardeur le clair-obscur de la vie? L'enfance brisée et l'espérance vibrante, les drames de la guerre et le désir de paix, l'effondrement personnel et la joie, l'intime et l'universel, le goût de l'atemporalité biblique et le caractère fugace du vivant. La poésie de Dalia Ravikovic habille de clarté l'obscurité fondamentale de l'existence humaine, cherche l'or dans la boue et tente de dompter la violence du monde par la douceur des mots. Ses poèmes touchent parce qu'ils s'enracinent dans une fragilité, et s'ils portent au loin, c'est que leur auteur, féministe et militante, a su les faire glisser sur le fil du rasoir de l'histoire. « Je suis heureux, dit Bruno Doucet, et fier d'être le premier éditeur francophone à publier la poésie de cette voix majeure des lettres hébraïques. » Voilà. Alors vous aurez compris, avec cette remarque de l'éditeur, qu'il est le premier, combien cet événement de cette publication est un événement littéraire, donc pour la connaissance de la poésie israélienne. Alors Michel, tu vas nous présenter Dalia Ravikovic.
Oui, alors tu as cité un petit peu dans quel sillage se plaçait la parution du livre, dans l'année de la célébration des rapports culturels entre les deux pays, entre la France et Israël. C'était l'occasion idéale pour publier un livre majeur comme celui-là. Ce qu'a fait Bruno Doucet, qui s'affirme là comme l'éditeur, voilà, qui non seulement flaire, mais a le courage enfin de publier des choses qui ont attendu pas des milliers d'années, mais enfin beaucoup d'années pour être révélées en français. C'est le premier livre, en fait, en traduction française de Dalia Ravikovic, qui est une poétesse majeure de la poésie hébraïque moderne. Bon, j'en parle pas avec assurance, avec une certaine connaissance, comme tu disais, la connaissance du traducteur. J'ai traduit Amichai, j'ai traduit quelques figures fondatrices, tutélaires de cette poésie hébraïque. Dalia, on l'appelait comme ça très familièrement et gentiment par son prénom. Dalia est une fête de fleurs, oui, qui se féminine, la voix d'une femme qui traverse, oui, qui plane au-dessus de ces zones d'obscurité, entre l'obscurité et la lumière, comme tu, Bruno Doucet l'a rappelé, tu le disais, de l'histoire et de la culture contemporaine israélienne. Bon, l'histoire des guerres, l'histoire des promesses de paix, chérie dans le cœur, mais jamais tenue, enfin, doublée d'une histoire personnelle qui est assez dramatique. Dalia, bon, était orpheline très tôt, enfin, elle est née en 38, hein, donc c'est...
36, je crois.
Voilà,
l'éditeur dit 1936.
Qui aurait dû avoir, oui, les 80 ans aujourd'hui. Elle a eu une vie très très mouvementée, tracée par des drames familiaux et drames de sa vie de femme. De là vient chez elle, bon, le souci qu'elle a de la le souci qu'elle dans lequel elle tient l'humanité, hein, l'humanité dans sa valeur, dans son essence la plus pure et celle qui doit rester intacte, hein, car la guerre dont elle parle, hein, et elle parle de, surtout elle parle de cette période de la guerre qui s'est effectuée au Liban. Elle parle de cette violence-là, et elle en parle aussi avec les yeux du poète et les yeux de l'enfant. Il y a un rôle dévolu à l'enfant, au regard de l'enfant sur le regard du monde, vous voyez, qui est tout à fait particulier dans son œuvre, dans sa voix. Dalia j'aime pas tellement, enfin, je suis pas du tout, disons, expert à parler d'écriture féminine. Il n'y a rien de, disons, pas d'écriture féminine au sens où peut-être on peut l'entendre, mais il y a vraiment le cœur d'une mère, le cœur de la mère qui a un fils, hein, qui est là. Le cœur d'une épouse aussi, d'une femme qui désire l'amour, qui cherche l'amour. Il y a tout ça dans sa vie de femme, et qu'elle porte qui vient en effusion dans sa poésie. Elle a publié à peu près un peu plus de 10 bouquins, 10 livres en hébreu, qui ont tous été des événements considérables. Elle est une référence aujourd'hui même, elle est une référence de la plupart des poètes, hein, des poètes israéliens contemporains. Une référence je pensais à un de tes derniers éditoriaux, Christian, le poète est un pont, oui. Référence comme un pont entre la lumière et les ténèbres. Alors elle le fait, je dis, avec sa vie de femme, son vécu de femme. Elle le fait aussi de manière plus, avec sa culture de femme hébraïque, nourrie de ces textes que sont la Bible, la Kabbale. La Kabbale, il y a pas mal de traces de cette approche qu'a la Kabbale, de la problématique de la lumière et des ténèbres. Et tout cela, elle le fait dans une écriture qui a un rythme, souvent un rythme enfantin. Il y a pas mal de poèmes qui, je veux dire, ronronnent, enfin, résonnent comme des comptines, c'est-à-dire des histoires qu'on raconte à des enfants pour les endormir. y a aussi dans ce rythme, il y a le choc, tout simplement, le choc de du cœur humain devant quelque chose qui l'affole et qui prend souvent la couleur des ténèbres. Voilà ce que je peux dire comme ça, de manière très...
Oui.
Très pointillé, enfin, sur cette œuvre. Je veux saluer la parution de cette œuvre qui a attendu 100 ans pour paraître. Et l'éditeur qui a fait l'effort et qui a eu le courage de découvrir cette voie, je crois que c'est une des caractéristiques de l'édition Doucet, qu'elle se saisit quand même, elle essaie d'atteindre les profondeurs dans lesquelles la poésie parfois se cache. Hein, elle se cache, tant mieux, elle se cache, elle se préserve du monde, mais aussi bien faut-il révéler la lumière qu'elle porte, un peu comme sous l'enveloppe, sur l'enveloppe ténébreuse, le cœur même de la matière qui est la lumière, qui fait de lumière.
Des
voilà les quelques
lumière.
Notes enfin que je peux faire résonner autour de ces étincelles de lumière que l'on trouve dans la poésie de Dalia.
Je te remercie, Michel. Il me semble quand même que de tout cela, il apparaît qu'il s'agit d'une œuvre importante et qu'il est de notre devoir de mieux faire connaître ça. Donc, si tu le veux bien, nous en reparlerons, Michel. Et je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler de nouveau de Dalia Ravikovic.
Oui, hein,
qui est
plaisir,
née en 1936, qui est morte en 2005.
Oui.
Et il y a dans la postface une très belle analyse quand même de cette femme hors du commun et qui, me semble-t-il, incarne totalement la poésie, puisque on dit que elle était, Dalia, c'était à la fois la fille, l'amie, l'amante, la mère, mais aussi l'endeuillée, l'indignée, la déterminée, la militante, la solitaire, l'insatisfaite, l'affligée, la tragique, l'inadaptée, l'exclue. Alors ceci est important. Peut-être, à cause de la poésie, une occupation aussi aliénante et risquée que la plongée sous-marine, croyait-elle, qui lui conférait une vision différente du monde, est-on-elle pensé qu'elle l'avait éloignée des gens. J'avoue que c'est assez, comment dirais-je, interpellant de voir
fait,
que
oui,
la poésie oui. a pu peut-être aussi être l'occasion d'une certaine distance avec les gens et peut-être ce regard sur le monde être un petit peu déformé. Mais peut-être amplifier, peut-être trouver aussi une autre vérité qui est peut-être une vérité plus accrue donc de sa vision du monde. Voilà. Il y a...
Oui, donc on se donne rendez-vous pour en parler.
On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour approfondir donc cette œuvre majeure, même pour des milliers d'années. Dalia Ravikovic, aux éditions Bruno Doucet.
Trop de lumière dans tout de même ce qui reste assez ténébreux dans notre réalité
bien sûr,
historique.
Oui. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. Et donc, à jeudi prochain, à 20h, pour notre émission. Merci encore et très bonne soirée, Michel.
Avec plaisir. Et amitié, Christian.
Amitié aussi.
À très vite.
À nous tous.
Au revoir.
Au revoir, Michel. Voilà, c'était donc Même pour des milliers d'années de Dalia Ravikovic aux éditions Bruno Doucet. Le livre vous coûtera 14,50 €, un livre important, un livre majeur donc pour la compréhension de la poésie israélienne et peut-être pour la compréhension véritablement de la mentalité de ce pays, Israël. Voilà. Nous allons continuer par d'autres publications, en particulier une publication de Michel Cozem aux éditions, que je ne connaissais pas d'ailleurs, les éditions Unicité, dans la collection Imagination Critique. Les éditions Unicité se trouvent 3 Sente des Vignes, 91 530 à Saint-Chéron. Alors, Michel Cozem, qui me dit ceci. Mon cher Christian, je pense que tu auras plaisir à vagabonder avec moi au pays de la poésie que nous partageons. Voilà. Alors, il s'agit de quoi? Elle, la messagère, nous entraîne. Le nouveau recueil donc de Michel Cozem convie au voyage, un double titre. D'une part, par le déplacement, la traversée des espaces, et d'autre part, par l'arrêt, par le surgissement des lieux. Avec Michel Cozem, nous montons dans le train, montons dans l'avion. Ça défile, ça glisse. Le passage d'un poème à un autre nous retient comme on attrape de l'eau, comme on remplit ses poumons d'air pur, façon impossible. Il y a là une cinétique du désintéressement que les fenêtres successives du poème sédimentent insensiblement, suscitant une douce métamorphose du voyageur. Et puis, au cœur du déplacement, tout à son silence, il y a ces frappes instantanées, pour ne pas dire décisives, ces lieux en tableau qui, mi-disent des histoires balayées par les éléments, des scènes incrustées de présence de pierre, de terre, de chair. Michel Cozem, avec elle, la messagère, dresse une série de ponts de mémoire, on retrouve toujours ces ponts. Sans drame ni cérémonie, témoin d'une existence qui va, qui vient, qui goûte, tel un panier offert à l'imagination de qui s'en saisit lucidement. Voilà. Alors, on a grand plaisir à lire ces textes, puisque ça nous fait, ce sont des textes qui nous font voyager, bien sûr, dans le pays de la poésie. Hein. Voilà ce qu'il dit Michel Cozem lui-même sur l'ensemble de ces poèmes. Voici des poèmes écrits sur des bouts de papier ou plus souvent sur des carnets. Lors de mes déplacements, j'aime particulièrement l'instant où je mets en mots un lieu, un paysage, une sensation née dans l'immédiateté de leur rencontre. La plupart de ces poèmes, je tiens à les nommer ainsi, ont été écrits en des lieux très différents, lors de rencontres avec des lecteurs en tant qu'écrivain dans les écoles, collèges, médiathèques, ou lors de fêtes du livre, étonnant voyageur de Saint-Malo, par exemple, à Montreuil, à Avignon, à Tarbes, à Toulon, ou de résidences d'écrivains, c'était le cas dans les Landes, à Oléron, à Sorge. Cela peut se produire aussi sur mes terres favorites, non loin de mes lieux de vie que j'aime beaucoup visiter, selon la saison ou même selon l'heure, le Fenouil, sa résidence d'été dans le Lot, la région toulousaine, les Pyrénées, les Corbières, l'Espagne, ou lors de voyages plus lointains comme les Canaries, l'Égypte, les îles de la mer Égée, la Bretagne, c'est amusant, hein, voyage lointain, c'est la Bretagne, la Castille, la Champagne, Paris. Mais c'est toujours au-delà de la rencontre, une nécessité de dialogue avec la réalité que j'aime, une volonté de cheviller par l'écriture les élans de l'éphémère, d'être à l'écoute d'une sorte d'éternité et de s'assurer qu'elle existe justement grâce aux mots, à l'écriture. Le lieu dans la poésie d'aujourd'hui est une notion fondatrice. Yves Bonnefoy l'avait bien souligné, et beaucoup après lui. On peut dire que le lieu est devenu la poésie elle-même, où se mêlent la réalité et l'imaginaire, l'humanité et la culture. Voilà. Alors, j'avoue que ces dernières lignes, le lieu dans la poésie d'aujourd'hui est une notion fondatrice, j'adhère totalement, et je voudrais essayer ici de convaincre qu'effectivement, nous sommes passés là, dans cette contemporanéité absolue de la poésie, nous sommes dans la poésie du lieu, et des gens comme Gilles Lade, comme Michel Cozem, et bien d'autres, incarnent totalement cette espèce de géopoétique dont avait parlé d'ailleurs Kenneth White il y a déjà quelque temps. Hein. Et Kenneth White qui disait d'ailleurs une des fonctions premières de l'écriture est de maintenir, de perpétuer la mémoire. Or, en parlant du lieu, on va maintenir, on va perpétuer la mémoire parce que les lieux ont des mémoires, bien sûr. La parole s'use, dit Kenneth White, elle se perd dans la confusion. L'écriture cristallise la parole. C'est ce que fait Michel Cozem avec elle, la messagère. Il va cristalliser cette parole. Il va rendre lieu cette mémoire. Il va faire de cette confusion. Il va la mettre au contraire, comme disait Michel Eckhart tout à l'heure. Il va des ténèbres un petit peu dans lequel pouvait être le lieu, il va tout d'un coup le mettre par ses qualités d'écriture, il va le mettre dans la clarté. Donc par ses qualités de clarté, de concision, de logique, l'écriture permet aussi de faire évoluer la pensée, alors que dans une société à tradition orale, où la parole est certes maintenue, la pensée aurait tendance à se figer dans la pure répétition religieuse et rituelle. L'écriture a donc une fonction à la fois de mémoire et de recherche. Voilà. Nous allons écouter un petit peu Michel Cozem dans toutes ses pérégrinations. Alors, nous allons peut-être commencer. Il y a l'Hérault, il y a l'Aude, il y a Côte d'Armor, voilà, je ne résiste pas. Je suis vraiment amoureux des Côte d'Armor. Les minuscules maisons comme des sucres à faire fondre dans les nuages noirs venus de l'océan sont encore clouées sur la lande par l'hiver, environnées de buissons froids et de frissons d'eau. Toutes tiennent dans leurs mains des cœurs qui respirent et n'iront pas plus loin. Elles rêvent de midi et savent se coucher avec tendresse, échangeant des fleurs blanches et des nouvelles de la Révolution. Elles s'accordent un moment d'émotion indifférente à la gelée blanche et au chant du rossignol, tandis que le train passe à travers la lande. Alors ce sont des poèmes écrits en prose, des petits paragraphes. Hein. Donc c'est très agréable à lire, c'est très agréable parce que la présentation aussi est très bien faite. Il y a le lieu qui apparaît en dessous du poème. Colomiers, c'est là où il habite, Michel Cozem, de Allée des Allobroges à Colomiers, c'est là où sont les éditions Encre Vive qu'il anime depuis 1960. Pensée errante d'avant-départ, collier de poussière ocre, couleur qui pulse le cœur, alors qu'un jour nouveau glisse là-bas dans l'eau du Nil. Les palmiers parlent au vent qui passe, le désert, tel un cobra, digère les plantes assoiffées. Voilà. Pour Colomiers, Haute-Garonne. Alors, cette fois-ci, il va à la ligne, et c'est un vrai poème, c'est-à-dire ce n'est pas un paragraphe de poème en prose, comme celui-ci que je vais lire, qui vient de l'atterrissage au Caire, la nuit. La ville, vue du ciel, comme un bijou, comme un collier qui rutile, signal vers l'au-delà, message sur fond noir de nuit avec rue, maison, avenue, quartier, telles des féeries, et puis deviner, toute simple, la vie humaine dans les gestes doux du sommeil. Toujours en Égypte, l'île éléphantine. Le garçon nubien aux cheveux jaunes, sur son canot navigue en battant des mains, entre les felouques des touristes. De loin, il demande la nationalité de ces gens assis dans le bateau et qui le regardent, lui tout petit, comme une épave au milieu du fleuve. Lui, le garçon à la peau brune sur l'immense serpent de l'eau, c'est alors qu'il chante d'une petite voix « Alouette, gentille alouette » ou « Matelot, ohé matelot ». Sa bouche bouge à peine. Son regard fixe l'étrave des ferries et sa main quémande des euros. Toujours l'Égypte, dans le temple d'Edfou. Douce et tendre à tort, pourquoi donc ton père, le dieu soleil Ré, t'a-t-il envoyé sur terre pour punir les hommes? Pourquoi t'a-t-il transformé en lionne, toi, la vache nourricière? Te voici devenu Sekhmet, te voici gourmande de sang, prête à dévorer l'humanité entière. Il ne restait plus qu'une poignée d'hommes en Nubie. Ils décidèrent de verser de l'ocre rouge dans de la bière, te faisant croire que c'était du sang. Ivre, tu perdis la mémoire et dormis longtemps au bord du Nil. C'est ainsi que les premiers habitants d'Égypte ont pu survivre et peupler ensuite la longue plaine. Et puis nous allons revenir en Espagne, une des places d'Espagne qui, moi, m'a le plus marqué, dans laquelle j'ai des souvenirs merveilleux et nombreux. La Plaza Mayor de Salamanca, en Castille. Serpentins et confettis bougent au vent de Castille. La place de Salamanque se gorge de cris et de lumière et la grenouille sur le crâne du mort s'apprête à sauter avec tous les autres fils et filles du vent, de l'herbe et des trous d'eau. Les générations se mélangent et les arches sereines sous les blasons tutélaires se jouent des modes et des lubies du temps. Le ciel soudain se dresse, noir d'orage et toujours le vent qui soulève les jupes des femmes et des papiers gras. Les pigeons se rapprochent de l'odeur des cafés et tout recommence à l'instant où l'on croit que tout va s'apaiser. Voilà, ça demande peut-être une petite explication dans ce très beau texte-là. Il dit, la place Salamanque se gorge de cris et de lumière et la grenouille sur le crâne du mort s'apprête à sauter avec tous les autres fils et filles du vent. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi apparaît cette grenouille sur le crâne du mort à propos de la place Salamanque? Il s'agit de la grenouille qui figure sur un des pans de l'université de Salamanque, l'université où était Miguel de Unamun, et dans toute ce flamboiement de sculptures, de ce mur d'université, cette façade merveilleusement sculptée là de l'université, eh bien, il y a parmi l'ensemble de ces sculptures, il y a un crâne de mort sur lequel figure une petite grenouille. Et alors, la légende veut que les étudiants, quand ils regardent cette façade et tout l'ensemble de ces sculptures, ils puissent trouver la grenouille. Et s'ils trouvent vite la grenouille, dans cet ensemble, ce n'est pas facile à trouver, bien entendu, lorsqu'on connaît, qu'on l'a vu plusieurs fois. Mais la première fois que l'on voit toutes ces sculptures, trouver la grenouille sur le crâne de mort n'est pas facile. Et alors on dit que s'il la trouve vite, eh bien, il réussira ses examens. Voilà à quoi fait allusion donc Michel Cozem dans ce texte « Salamanque, place Mayor ». Et puis nous allons peut-être revenir chez nous, peut-être chez nous, ici à Toulouse, la gare Matabiau, la gare Matabiau de Toulouse. Dans la gare brumeuse du matin, 7h40, en partance avec d'autres gens, des inconnus, odeur de café, Roland de tabac et bouffée glacée du dehors. On a encore les couleurs de nuit d'encre mal lavée. On a l'âme sans pitié et l'on épie les choses. On est armé pour de grandes chevauchées dans les campagnes pluvieuses, près des peupliers squelettiques, les pitons moyenâgeux et les villages dans leurs soupçons de givre. On va habiter la demeure de l'errance, de l'improbable, de l'infini. On est habillé pour toutes les insomnies. Et puis on va aller chez lui, au Fenoul, dans le Lot. Un papillon jaune traverse le pré, goûte au vent d'ouest, se recouvre du pollen soudain hâtif de l'automne. Nul ne cherche à détourner son vol sous le regard des pommes déjà rouges et des hauts chênes pareils à des navires. Nul ne l'aide non plus dans son vol incertain, ni les nuages aux blanches chevelures, ni l'odeur âcre des prunes tombées à terre. Un grillon non loin, et c'est une scie et une tourterelle désenroue sa voix. Le papillon ira où bon lui semble, chercher un refuge pour la nuit. Et puis on va aller en Ariège. Ariège, mon pays. Et un pays qui a été le pays de Michel Cozem, puisque il habitait longtemps en Gomère, dans cette vallée, cette montagne, près de Saint-Girons dans lequel il travaillait au lycée de Saint-Girons. Et voilà ce qu'il dit de Saint-Girons, Ariège. Comme après un très long sommeil, un rêve pelucheux, dont il ne reste rien, me revoilà dans des rues sombres et étroites, respirant la misère des mots tordus. Le ciment gris sans l'eau de la rivière et la brume, le feu de bois. D'où est venue ma léthargie? Pourquoi ai-je tant de mal avec les souvenirs? Ils sont tous pourtant là, sous les porches, et je ne distingue rien sinon la lueur des regards où se mélangent la haine et la jalousie. Je passe, essayant d'extraire des joyaux et tous comme s'ils avaient encore un quelconque pouvoir, se repaissent de leur moquerie. Voilà, Couseron, Ariège. Et j'oubliais qu'effectivement, il n'y a pas que moi maintenant des Ariégeois, puisque Claude est aussi maintenant Ariégeois. Hein. Il habite Mazères, Claude. La montagne toute verte et drue est plantée dans la vallée. Elle s'élève dans le printemps au milieu des arbres fidèles, pareil à des chevaux pur sang, tout brillants et piaffants pour la saison nouvelle. Les torrents ont le fol vêtement des demoiselles et des envies encore sauvages qui emplissent le bonheur. Tout est neuf. À mes chers aux jusants de la mémoire, tout est étoilé de perles et de parfums. Le buisson est comme un fanal sur la pente. Paris. Paris. La Sorbonne. De jeunes ombres passent à travers les arches. On ne sait ni devine quelle est la couleur de ce lieu. La pierre est aussi grise que la brume ou la reliure des livres ou encore que le ciel habituel. Pasteur veille, on ne sait pourquoi, avec un pigeon sur l'épaule, un autre sur le nez, sur la main. C'est ainsi. Des ombres disparaissent dans de grandes portes boisées donnant dans des bibliothèques. On peut voir un instant une tête dans le reflet du savoir. Et puis, comment peut-on monnayer des idées futiles et de grandes espérances? Qui donc parmi les ombres nouvelles tente d'éveiller une licorne? Le sol sonore ne peut retenir aucune trace. Alors, Paris toujours. La journée s'achève, avenue des Gobelins. Dans un ciel d'encre claire qui fait croire à l'Atlantique, à l'encre des ports et au départ pour l'aventure. Les hautes tours sont amarrées. Entre les arbres s'éclairent les lampes de mille vies, rassemblées, urgentes et incertaines. C'est le rouge qui domine au perché dans le ciel. C'est le vert qui remplace le feuillage perdu et c'est le jaune qui va main dans la main avec la foule. Une jeune femme fragile dans un manteau court traverse le boulevard et s'en va avec son ombre. La journée s'achève, avenue des Gobelins, près de la place d'Italie. Et puis, bien sûr, dans ses voyages, il lui est arrivé de prendre, il disait le train, puisqu'il parlait de la gare Matabiau, mais il est arrivé aussi de prendre le TGV. Et voilà ce qu'il écrit dans le TGV. Brouillard sur la bosse, terre à demi maritime, un oiseau noir s'est posé sur l'arbre unique, sur l'arbre nu, et demeure accroché comme un fruit résistant à l'hiver. Rien autour, sinon ce rêve liquide, ni joie, ni peur, seulement un pieu planté nulle part, et cet oiseau déjà tout imbibé de transparence. Voilà, un très beau livre, très émouvant, définitivement. Allez, je finis sur les Corbières, quand même, les Corbières. Il a été aussi dans les Corbières, hein. Il a habité Bram. Corbière, Aude. J'aime cette terre d'argile broussailleuse et percée, peuplée de pierres blanches, comme des moutons surgis du gris de la brume et des lèvres de la ravine allant vers la lumière comme vers les temps futurs. On passe ici fendant le vent et quelques pailles viennent sécher les larmes du jour que rien pourtant ne saurait troubler. On est là, simplement, à jouer au berger perdu. Voilà, donc ça donne un bon aperçu aussi de ce qu'est cette poésie des lieux, c'est-à-dire, vous voyez à quel point on n'est pas du tout dans la description méthodique. Ce ne sont pas des cartes postales, ce sont des cartes postales poétiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interférences totalement métaphysiques, et ce qui fait bien entendu la force, la grandeur du poème. Voilà, donc Elle, la messagère, Elle, bien entendu, A-I-L-E, hein, l'aile de l'oiseau, Elle, la messagère, Michel Cousem, aux éditions Unicité. et c'est un livre qui vous coûtera, très beau livre, qui vous coûtera 15 euros, dont je ne saurais vous recommander de vous le procurer. Alors, je crois que nous devons également parler de cela. Je voulais parler aussi de Jacques Canu. J'ai beaucoup d'émotions chaque fois que je reçois les publications de Jacques Canu, mais j'en parlerai donc dans une prochaine émission. Jacques Canu qui fait paraître Alcancilla, c'est-à-dire la tirelire, Jacques Canu, aux éditions Calamo. Ce sont des textes en espagnol avec traduction, oui, il a traduit en français. Texte court, très beau, très émouvant aussi, de Jacques Canu. Alors, je vous en parlerai parce que je ne peux pas, en quelques secondes comme ça, également, il fait paraître dans cette petite collection qu'il appelait lui-même pour solde de tout compte étant compte C-O-N-T-E-S, il fait paraître Claire-Voix, c'est avec une couverture illustration de Thomas Lecœur. Très joli, très petit livre, très joli. Je ne sais pas combien coûtent ces livres, c'est peut-être ça le problème avec Jacques Canu. Nous ferons une émission sur ces textes, en particulier dans les textes en espagnol, parce que vraiment, je trouve qu'il y a là un sens de la langue castillane vraiment très aigu, raccourci, vraiment une précision, et en même temps, c'est à la fois méticuleux, dépouillé, il écrit vraiment superbement en espagnol, il faut qu'on en parle de ça. Alcancilla, tirelire, et puis Claire-Voix de Jacques Canu, vous pouvez vous procurer ces ouvrages dont nous vous parlerons chez Jacques Canu, 19 allée Lagarasic, 32 000 à Auch, 19 allée Lagarasic, s'écrit L-E-A-G-A-2-R-A-S-I-C, 32 000 à Auch, Jacques Canu, dont nous aurons le plaisir de parler dans une prochaine émission. Et puis, avant d'aborder la publication aux éditions Poepsi, dans la collection In Extenso, alors c'est une collection In Extenso, chez Poepsi, vous savez que Poepsi sont des éditions RS, qui sont des éditions toulousaines d'ailleurs, hein, et qui sont, pour ce qui est de la poésie, dirigées par Daniel Faugeras, et qui publie donc des ouvrages de très haute qualité, vraiment très haute qualité. Et là, dans cette collection Poepsi in extenso, c'est une collection qui reprend des textes d'auteurs précédemment publiés dans la collection du même auteur, c'est la collection Princeps, en les restituant dans l'ensemble plus vaste qui les a vus naître. Donc ce sont des recueils thématiques intégraux où on peut publier une œuvre poétique complète. Hein. J'avais déjà parlé, je crois, ici de Abbas Kiarostima, qu'est-ce qu'il y a eu encore, Federico García Lorca, avec Polisseur d'étoiles, et puis Jacques Ancé, quelque chose comme un cri, hein, entre autres. Alors il publie là Anne Bramness, Le poids de la lumière, sont les poèmes de 1983 à 2017, avec Deux eaux fortes de Florence Barberis. Alors, de quoi s'agit-il? Anne Bramness, pas facile à dire. C'est une dame qui est née en 1959, Anne Bramness, et qui figure parmi les poètes norvégiens les plus importants de sa génération. Après un séjour en Angleterre, dans les années 80, elle vit maintenant entre la Norvège et Berlin, avec son mari, l'écrivain Lars Amund Vage. Je ne sais pas comment ça se prononce. Vage, Claude qui revient d'Allemagne, pourrait peut-être le prononcer. Alors, son premier recueil à Anne Bramness de poèmes, s'appelait Correspondance, a été publié en 1983. Il sera suivi d'une œuvre extrêmement riche, puisque sa bibliographie comprend également des recueils et romans pour la jeunesse, ainsi que de nombreuses traductions. Elle traduit Sylvia Plath, Denise Levertov, Selima Hill, William Blake, Kalama Das, Marie Under, sans compter plusieurs recueils de poèmes chinois et japonais du passé. Voilà. Anne Bramnes a obtenu les prix les plus importants du monde littéraire nordique, puisque en 1996, elle a obtenu le prix du club norvégien de poésie pour ses traductions, et en 2006, le très recherché prix d'Oblug, décerné donc par une académie suédoise. En 2012, elle a eu le prix Vergeland. En 2014, le prix, alors là, Literaturpis. Et puis, même en 2016, vous voyez, ça n'arrête pas, le prix Dikart Talavla. Bon. Outre les recueils de poèmes faisant l'objet du présent volume dont je parle, Anne Bramnes a publié en 2010 100 films dans l'appareil et en 2015 L'inconnu, c'est une reconstitution des poèmes d'un auteur anonyme issu d'un carnet abandonné dans un hôpital psychiatrique avec ses propres poèmes en réponse suivi d'un essai. Voilà. Donc vous voyez, personnage, une figure importante parmi donc ces poètes norvégiens, donc une voix importante de la poésie norvégienne, et il est de notre devoir bien sûr de le signaler. Alors qui est-ce qui a traduit ça? C'est Anne-Marie Soulier. Anne-Marie Soulier, après une carrière universitaire à Strasbourg, notamment consacrée à l'enseignement de la traduction dans le domaine anglo-saxon, Anne-Marie Soulier se consacre aujourd'hui à son œuvre poétique et à la traduction des poètes les plus importants de Norvège, pays qu'elle connaît bien, tout simplement parce qu'elle y a aussi vécu. Et puis elle a publié de nombreuses traductions de ses poètes, dont dans des revues. On en retrouve effectivement, je m'en souviens maintenant de ce nom, on en retrouve dans la revue Décharge, Dierez. La revue alsacienne de littérature, Recours aux poèmes, Terre des femmes, Terre à ciel, etc. Alors, elle a publié plusieurs recueils, La pluie en janvier, c'est des poèmes de Auvind Rimbenred, ça a été publié à Strasbourg, 2004, Trois poètes norvégiens, il a été publié aux éditions Le Murmure à Dijon, Le blues du coquillage, ce sont des poèmes pour enfants, de Anne Bramnes déjà, donc Poepsie RS, donc ça c'était chez nous à Toulouse en 2013, et Bureau de papier, ah oui, poème de Olav H. Hoge, Poepsie RS, Toulouse 2014, nous en avions, je pense, parlé à cette époque-là. Et elle donne de nombreuses lectures bilingues, souvent musicales, autant que possible, avec la participation des auteurs. Elle a participé à l'émission de la radio classique strasbourgeoise Accent 4, Les Jardins d'Éole, qui est consacrée à la musique et poésie en Norvège et Finlande. Ça a été diffusé, ça, en mars 2017. Elle a été distinguée traductrice du mois, en octobre 2017, par le Centre National du Livre Norvégien. Voilà. Et puis, il y a donc des illustrations de Florence Barbéry, ça, ce très beau livre, hein, c'est un gros livre, hein, un gros livre aux éditions RS, avec toujours petit format, hein, très très bien fait, très agréable, et d'ailleurs ça ne coûte que 25 € pour les 880 pages, l'illustration, une mise en page qui est parfaite, vraiment un travail technique qui est toujours remarquable. Comme toutes les publications donc de Poepsie. Alors, pour revenir à l'illustratrice Florence Barbéris, elle est née en 64. Elle vit et travaille à Aubé, elle est dans le Gard. Son travail de gravure, exposé régulièrement depuis 2001 dans des galeries, dans les salons nationaux, internationaux, est présent dans les collections publiques. On le trouve dans le musée des Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence, la médiathèque départementale de l'Hérault. Depuis quelques années, il s'enrichit et s'ouvre sur d'autres cultures, d'autres pratiques, lors de séjours et résidences à l'étranger, notamment en Asie. Décidément, l'Asie attire beaucoup de nos artistes. Elle a collaboré à plus de 40 livres d'artistes, en particulier pour les éditions Cadex, Encre et Lumière, Sans Regard. Elle est cofondatrice de la Biennale Sud-Estampes. Elle intervient en médiathèque, dans les musées, les écoles, et assure un rôle de transmission au sein d'ateliers gravure. Voilà pour Florence Barberis. C'est effectivement très belles illustrations, avec une mise en page hein, qui est vraiment remarquable. Alors, maintenant, quelques extraits de Anne Bramès, Le poids de la lumière. Le poids de la lumière. Je vais prendre parmi les derniers textes. Hein, il s'agit là c'est une anthologie, donc il y a plusieurs périodes. Hein, je vous dis, il y a 800. Bien sûr, c'est une édition bilingue. Hein, il y a norvégien et français. Donc sur 800 pages, bon, il y en a 400 qui sont du norvégien, il y en a 400 en français. Donc j'ai pris dans les derniers, vu le peu de temps dont nous allons pouvoir disposer, je vais prendre dans les derniers textes, en particulier, je ne pouvais pas ne pas lire ce texte, puisque il a pour titre « Le génie du poème », « Le génie du poème » de Anne Bramès. Dehors en plein vent pour aller décrocher le linge. Course contre la pluie. Et voilà que s'approche un poème. Et pour le saisir, il faut jeter ce que tu as dans les mains. Flanqué par terre les chaussettes et les mitaines bleu pâle, le bonnet de bébé, la vareuse blanche, le pantalon javelisé, un drap extensible orange, des serviettes et des torchons élimés, une chemise rayée et un jean. Presque deux machines pour attraper un poème. Un petit poème sur le doute. Un poème qui parle de se laisser flotter sur des mélodies ou de s'agripper à des accords, qui parle d'amour et de confiance. Tiens bon, va, vas-y. En tendant le bras, tu arriveras juste à l'attraper par la queue et à le noter en commençant par la fin. Mais en cet instant où le tonnerre roule, où le ciel s'obscurcit, le poème se montre plus fuyant que ta brassée lumineuse de linge frais lavé. Et puis en continuant, nous allons lire... me fait signe que nous n'avons pas le temps de continuer. Donc nous reparlerons de ce recueil que je ne peux que vous inviter évidemment à vous procurer. N'ayez crainte, il ne prendra pas beaucoup de place, et c'est une des qualités de ces éditions aussi, c'est le petit format. Il est petit mais costaud, hein, 800 pages, très agréable à lire, très agréable à feuilleter, et puis comme toujours des textes d'exception. Anne Bramès, Le poids de la lumière aux éditions RS. Voilà, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.